Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, c'est le grand angle de ce jour, la nuit du doute ce mardi. Notre invité est le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Tout simplement, cette nuit du doute, est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous en tant que grand imam, en tant qu'islamologue également, nous dire ce que cela représente pour les fidèles musulmans?
Ce n'est pas vraiment une notion canonique, c'est plus une notion technique d'estimation de la vision ou pas de la nouvelle lune qui marque le début du mois de Ramadan. Avec le calcul astronomique, il n'y a plus de doute, mais de critères de calcul qui permettent de prédire ou bien de calculer justement la possibilité de la vision du croissant, même s'il n'est pas vu à l'œil nu. C'est-à-dire on calcule pour la vision et pas pour la vision en tant que telle.
Comment évaluez-vous, Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux, la situation, le climat aujourd'hui en France?
On le sait tous, on entre dans une phase politique où il y a des élections qui se rapprochent et c'est un moment toujours de tension politique et sociale. Et c'est dans ce climat que s'inscrit ce jeûne de mois de Ramadan cette année. J'espère que ça sera une occasion, en tout cas pour les musulmans, de vivre un moment de sérénité, de recul par rapport à l'agitation sociétale et d'avoir une expérience de transcendance dans un monde marqué par la matérialité, l'urgence, le présentisme, les crises de toutes sortes. Je pense que la pratique de la religion générale est favorable à l'apaisement, à la sérénité, à condition qu'on conscientise, qu'on sache l'esprit des pratiques, parce que le Ramadan, ce n'est pas uniquement une abstention de toute nourriture, de toute consommation sexuelle, mais l'abstention de tout mal, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau moral. Et donc, c'est un moment d'ascèse, d'ascétisme intramondain, c'est-à-dire que le jeûne se vit dans la société, mais à condition qu'il ne nuit pas à la société sous prétexte que le musulman jeûne. Il y a des dérogations qui permettent aux musulmans d'avoir un rapport très apaisé par rapport à cette pratique. Il y a des dérogations qui lui permettent de ne pas jeûner s'il est dans des situations de contrainte. L'essentiel, c'est de conserver l'esprit du jeûne, qui est un moment de transcendance, de prise de recul par rapport à la pesanteur du présent, à la matérialité de la vie. Et je conseille mes co-religionnaires de ne pas transformer le jeûne du mois de Ramadan en surconsommation de la nourriture, parce que paradoxalement, beaucoup de musulmans consomment beaucoup pendant le mois de Ramadan. C'est devenu même le mois de la consommation, alors que le but, c'est de réduire la consommation, c'est-à-dire la croissance par la décroissance dans la consommation. Et donc, effectivement, c'est une autre forme d'économie. C'est apprendre à inhiber ses instincts également, l'agressivité, la violence de toutes sortes, qu'elle soit psychologique, symbolique ou physique. Et donc, effectivement, c'est un mois intense que le musulman doit vivre vraiment avec sincérité et dans l'altérité. Il ne faut pas que son jeûne impacte son environnement. Pas de bruit, pas de gêne. Et donc, c'est un moment de discrétion, d'ailleurs. Le jeûne, c'est la pratique de la discrétion. Et donc, effectivement, il faut conserver l'esprit de cette pratique et adapter sa forme.
On l'entend, hein, c'est ce que vous dites, la transcendance passe par le jeûne. C'est l'esprit de cette action.
Effectivement, parce que le jeûne, c'est quoi? C'est imiter les anges qui ne boivent pas, qui ne mangent pas, qui ne copulent pas. C'est-à-dire que l'homme, il est capable de dire non à ses instincts sans mortifier le corps, et imiter le modèle divin aussi, puisque Dieu ne mange pas, ne boit pas. C'est-à-dire que nous avons cette capacité spirituelle de s'affranchir des lois biologiques qui parfois étouffent l'émancipation de l'esprit. Et donc c'est un mois d'équilibre entre les besoins biologiques et les besoins spirituels. C'est imiter les anges, puisqu'on est, capable d'être comme une bête qui ne cesse de consommer, qui subit ses pulsions, mais en même temps, on est capable d'être comme des anges, c'est-à-dire capable de transcendance.
La journée de ce mercredi sera marquée par le mercredi des cendres pour les chrétiens, le début du carême. Le fait que le ramadan et le carême débutent quasi en même temps, c'est un signe particulier, un élément qu'il convient de souligner.
Oui, c'est une coïncidence très symbolique. C'est les deux jeûnes et les deux carêmes qui se rejoignent. Et j'espère que ce sera un moment de dialogue interspirituel, interconvictionnel, interreligieux entre le christianisme et l'islam, qui sont des deux religions universelles et universalistes, et donc de converger vers cette pratique et qui est au service de l'être humain et de la société. Et donc c'est une coïncidence très symbolique. Cette année, les deux calendriers se rejoignent.
Et cela peut permettre aussi aux fidèles de chacune de ces religions de discuter peut-être davantage encore de leur foi respective.
De partager leur foi respective, de partager le jeûne, de partager la rupture du jeûne également, parce qu'on jeûne pour rompre. On apprécie le don après la privation, on apprécie la nourriture après la faim. Et donc, effectivement, ce sont deux religions qui ont la même philosophie de la transcendance, puisque le jeûne est inscrit dans leur pratique. Et Jésus, il conseillait aux fidèles de jeûner, mais dans la discrétion, de ne pas... Le jeûne, ce n'est pas une pratique de la monstration, mais de la discrétion. Au contraire, rien ne doit changer dans la vie du jeûneur. Banaliser le jeûne, puisque c'est une pratique intérieure, personne ne peut vérifier si vraiment le fidèle jeûne ou pas. Donc c'est un rapport avec Dieu. Il jeûne sous le regard de Dieu, mais il le vit également parmi les hommes. Le fidèle, il jeûne pour Dieu, mais... Il partage également, c'est un mois de générosité, on se prive pour donner, donc on diminue la consommation de la nourriture pour économiser de l'argent qu'on donne à autrui. Donc c'est un mois vraiment de don et de partage.
Vous évoquez Jésus qui a une place importante en islam.
Oui, c'est le verbe de Dieu, c'est l'esprit de Dieu à cet égard-là, il est très symbolique parce que l'esprit de Dieu, ça veut dire... un esprit émancipé de la tyrannie des instincts et la tyrannie de la pulsion de la consommation qu'impose aujourd'hui une certaine économie qui réduit l'être humain à une simple biologie qui n'a de souci que de se reproduire, de copuler et de manger et de consommer.
Mais cela devrait être davantage souligné, non ? Tous ces rapprochements, le fait que Jésus ait une place importante en islam, c'est également le cas de Marie qui est citée à de nombreuses reprises dans le Coran. Il serait important de souligner davantage cela pour créer davantage de cohésion entre les citoyens.
Mais c'est très important, bien sûr. Ça, Jésus et sa mère remplissent le Coran. Leur récit traverse le Coran, les sourates du Coran, les chapitres du Coran. Donc le musulman, il est familier, il est familiarisé au récit de la Sainte Marie Vierge. C'est la virginité spirituelle aussi bien que biologique, puisque la naissance de Jésus fut par un acte miraculeux. Le Saint-Esprit, Gabriel, a déposé ce verbe, cet esprit dans les entrailles de Marie, sans intervention biologique d'un mari biologique. Donc, il n'a pas de mari biologique, mais un mari spirituel, c'est-à-dire l'ange qui vient déposer dans ses entrailles ce souffle qui sera par la suite le verbe de Dieu qui s'est fait chair. En islam, il s'est fait chair par création et non pas par engendrement. C'est la petite différence qui existe entre l'islam et le christianisme.
Merci beaucoup, Tarek Oubrou.
Merci à vous.
Je rappelle que
merci
vous êtes vous. Grand imam de Bordeaux. Vous êtes aussi islamologue. Un grand merci. Merci à vous, chers auditeurs. Et excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.